Bonsoir, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est la Saint-Parfait. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Parfait? Moi non. C'est beau pourtant. On pense à l'artisan qui réussit un travail parfait. C'est magnifique. Je me suis demandé ce que j'avais de parfait autour de moi. Eh bien déjà un bébé. Avec ses yeux qui regardent, ses cinq petits doigts de pied de chaque côté et sa voix qui porte, il est parfait. Il en est des millions par jour dans le monde, des bébés parfaits. Pas seulement des bébés d'humains, mais des bébés de souris, de crabes, de pangolins, d'abeilles, de grenouilles renettes. Et pourtant, n'y a-t-il pas quelque chose qui ressemble à de l'imperfection dans toute chose parfaite? Pour reprendre l'exemple de notre corps qui fonctionne si bien, notre visage n'est pas symétrique. Et comme le souligne Florence Foresti, nous n'avons aucune poche sur notre peau, c'est quand même pas pratique. Imperfection qu'il nous faut bien accepter. Accepter l'imperfection tout en continuant à s'acquitter parfaitement de nos tâches, voilà un défi. 3 fois sur 4, une fois seulement, que dis-je, 1 fois sur 4 seulement, monter du matin est parfait. Pile bien dosée, pile bien infusée et à la bonne température. C'est alors un petit miracle qui me transporte. Ce n'est pourtant pas bien difficile de faire du thé, me direz-vous. Si, vous répondrai-je, quand on le prépare complètement endormi. Mais alors pourquoi ne lancez-vous pas votre thé une fois bien réveillé? Mais parce que c'est justement le thé qui me réveille.
Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 8 ans. J'aimerais savoir pourquoi dès qu'on dort profondément, ben on sent rien et on n'entend rien. Au revoir.
Mathieu fera peut-être votre métier pour avoir de telles interrogations. Professeur Isabelle Arnulf, vous êtes chef du service des pathologies du sommeil à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pourquoi quand on dort profondément, on ne sent rien, on n'entend rien?
C'est une très bonne question, Mathieu. Tu dis bien profondément, parce que tu sais qu'il y a des moments dans le sommeil où, si on a un bruit un peu fort, ça va nous réveiller. Donc ça veut dire qu'on entend quand même. Alors, on entend et on sent, en fait, pendant le sommeil. Mais le cerveau décide ou pas de se réveiller en fonction de l'intensité de ce qu'on fait. Si, évidemment, c'est quelqu'un qui te secoue brutalement, tu vas te réveiller parce que tu vas avoir même peut-être un peu peur. Ou si c'est un bruit très fort. Il faut que le cerveau puisse réagir, parce que c'est pas du coma le sommeil. Il faut quand même qu'on puisse s'échapper s'il y a un feu, ou réagir. Maintenant, au tout début du sommeil, quand ça fait longtemps qu'on a besoin de dormir, le sommeil est très profond. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus dur de secouer quelqu'un et de le réveiller. Et il peut même avoir du mal, pas être très clair en se réveillant à 1h ou 2h du matin. Si ça t'est arrivé que tes parents te réveillent parce que tu t'étais endormi chez des amis, tu risques de pas trop t'en souvenir et pas être très réactif, ou alors te réveiller très mal avec une accélération du cœur. Ça veut dire que tu étais dans le sommeil profond. Ce qui semble important pour le cerveau, c'est de garder un peu de continuité dans le sommeil, parce qu'il est en train de travailler, de faire plein de choses, de ranger, un peu comme s'il rangeait ta chambre, de reclasser les choses, et pour ça il faut pas qu'il soit trop dérangé. Donc il essaye un petit peu, ton cerveau, d'ignorer les bruits extérieurs, ou au mieux de les intégrer dans le scénario qu'il est en train de faire, comme par exemple la sonnerie d'un réveil que tu vas intégrer peut-être dans ton rêve, comme quelqu'un qui sonne à la porte. 1 fois sur 4 à peu près, les stimulus extérieurs arrivent à pénétrer dans ton cerveau et à être interprétés et changés en autre chose.
C'est amusant, Isabelle Arnulf, ce mélange entre la vie extérieure et la vie intérieure, et ça se tricote en une seule histoire.
Oui, c'est vrai que le cerveau a plein d'astuces pour pas complètement se réveiller.
Eh ben, l'affreux, c'est je rêve que je vais aux toilettes et je fais pipi dans mon lit.
Oui, heureusement, il n'est pas très fréquent. Le problème, la plupart des enfants qui font pipi au lit, c'est qu'ils ne rêvent pas. Hein, c'est qu'ils, par contre, ils ont beaucoup de mal à se réveiller pour sentir que la vessie est pleine. Pendant le sommeil, on est un peu sur des systèmes automatiques, c'est plus la volonté. Et donc, il faut bien ne pas les punir, c'est pas une histoire de volonté. Hein, c'est vraiment que le système automatique ne fonctionne pas très bien.
Et quand on sent que quelqu'un souffre dans son sommeil, il faut le laisser vivre sa vie d'endormi ou il faut le réveiller à votre avis?
Il ne faut pas réveiller les gens qui dorment, hein. C'est-à-dire même s'il a l'air de souffrir dans son sommeil, il est en train de travailler en fait. Hein. Et au contraire, en le réveillant, on va empêcher ce travail-là.
Il ne faut pas réveiller les gens qui dorment, dit le docteur Isabelle Arnulf. Nous pourrions peut-être mettre cette phrase sur la porte de nos chambres. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants nous posent des questions et nous nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Alors ce soir, vous avez demandé à Claire Delamarche comment on a inventé les flûtes traversières, à Viviane Perret pourquoi on a l'impression que les sorcières sont plus méchantes que les sorciers, et à Maître Hervé Temim s'il savait, en tant qu'avocat, si son client était innocent ou coupable, mais tout de suite un habitué des petits bateaux que nous adorons.
Bonjour, je m'appelle Lila, j'ai 7 ans et j'aimerais savoir lequel train va le plus vite possible. Merci.
Bonsoir Lila, Clive Lamming, vous êtes historien, on dit historien des trains, c'est français ça?
Ou du chemin de fer, train des c'est pas fer. Joli.
Ah, train, c'est bien, vous trouvez que c'est pas
non,
joli?
Non, c'est pas un joli mot, le train, l'arrière-train, le bouton-train, non, c'est le chemin de fer, c'est tout le système le chemin de fer.
D'ailleurs, votre dernier livre s'appelle « La France de gare en gare, une aventure ferroviaire ». Ce livre est passionnant, il fourmille de petites histoires de photos bien sûr, mais il fourmille de petites histoires plus amusantes les unes que les autres.
Alors Lila, je vous dirais que tous les trains vont le plus vite possible, parce que sinon ce serait pas très sérieux si on les empêchait de rouler vite. D'ailleurs, le chemin de fer a été, dès sa création, un moyen de transport extrêmement rapide. Avant les trains, il n'y avait que la diligence, le cheval ou la marche à pied. Savez-vous, par exemple, que si vous deviez aller faire une émission à Marseille, vous auriez demandé, en 1810, une permission d'environ 20 jours pour aller jusqu'à Marseille? Et autant pour revenir, soit 40 jours. C'était la vitesse normale. Et le chemin de fer permet de faire en heure ce qu'on fait en jour. C'est-à-dire que les premiers trains font Paris-Marseille en 20 heures, et aujourd'hui, ils le font seulement en 3 heures. Le train a toujours été condamné à la vitesse, sinon il ne rapportait pas d'argent. Les gens qui ont pris les trains étaient donc très très pressés. Donc finalement, on s'aperçoit que cette qualité du chemin de fer est telle que même Napoléon III est effaré par la vitesse des trains. À l'époque, les diligences faisaient du 10-12 km/h, qui limite les premiers trains à 120 km/h. Les premières locomotives, les fameuses Crampton, qui roulaient entre Paris, Lyon et Marseille, pouvaient atteindre 120 km/h, soit 10 fois plus vite que les diligences les plus rapides.
Est-ce que c'est une légende, Clive Lamming, ce qu'on raconte, que on craignait que les vaches ne souffrent de crise cardiaque parce que les trains allaient trop vite, que ça allait les...
Ce n'est pas une légende, ce sont des craintes qui ont réellement existé, puisque même Thiers, Adolphe Thiers, l'ennemi de la Commune, était un monsieur très sérieux. Il disait que le chemin de fer ne serait qu'un jouet, il ne les prenait pas au sérieux. Il disait, d'ailleurs, ils vont tellement vite que le corps humain va se décomposer. C'est-à-dire que le squelette continuera à avancer, mais les chairs et les moustaches et le chapeau, tout ça, ça restera en arrière. Avec la vitesse, on avait peur que le corps humain ne puisse pas tenir une telle vitesse. Et je pense à Lamartine, après la catastrophe de Meudon, qui fait 55 morts en 1842, dit finalement, pleurons, pleurons ces morts. Mais il dit, d'un seul œil, de l'autre, réjouissons-nous, parce que le chemin de fer vient de prouver qu'il peut aller très vite et emmener beaucoup de gens. Les premiers trains emmenaient 1000 personnes, comme aujourd'hui, alors que la diligence emmenait 12 personnes au maximum. Donc finalement, le chemin de fer, c'est à la fois beaucoup de gens et beaucoup de gens qui vont très vite.
Et maintenant, au 21e siècle, quel est le train le plus rapide, Clive Lamming?
Il faut bien faire attention. On dit que certains trains à sustentation magnétique ou à réaction sont très rapides, mais ce ne sont pas des trains. Ils n'ont pas de rails, ils n'ont pas de wagons. Un vrai train avec des rails et des wagons, c'est-à-dire un train classique, ça reste le TGV, avec le record en France, qui a été battu en 2007, à 574,8 km/h, c'est-à-dire presque du 600 à l'heure. Savez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour qu'un TGV puisse rouler à 400, voire même 500 km/h. Il n'y a aucun problème, mais la SNCF dit simplement, ce n'est rentable de faire rouler les trains plus vite que s'ils vident les avions. Il suffit d'aller à peine plus vite que l'avion pour que là un train soit rentable. Les premiers TGV faisaient Paris-Lyon en 2 heures, à 260 km/h, en 2 heures et demie. Ça suffisait pour vider la caravelle d'Air France. Et aujourd'hui, si les TGV roulent à 300, ça suffit pour vider l'avion. Alors bien entendu, l'avion reste toujours imbattable sur les distances qui sont supérieures à 1000 km à peu près.
Merci Clive Lamming. Allez-vous me croire si je vous dis que quand Jean-Baptiste Audibert a programmé cette chanson de Raphaël et Pomme, Le train du soir, il ne savait pas que nous allions parler de train. Il a donc de l'intuition. Moi, je pensais qu'il ne savait prévoir que les scores du PSG.
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, file vers toi. Du vent dans les cheveux et le bruit des essieux. Nos souvenirs qui sont en feu. Le train du soir file vers toi, derrière les montagnes. Le dernier ferry pour le paradis. La compagnie, les soldats du corail qui boivent, qui chantent et qui déraillent. Qui déraillent, qui déraillent, qui déraillent. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas.
Le train du soir file vers toi, sans direction, sans chauffeur. Derrière le moteur, j'entends battre ton cœur. Le dernier ferry pour le paradis. La mer serait-il cette nuit?
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Mais je ne pleurerai pas.
Mais je ne pleurerai pas.
C'était Raphaël, le chanteur Raphaël et Pomme, le train du soir. Mais je ne pleurerai pas. Parfois, on prévoit de pas pleurer et puis on pleure quand même.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez l'avocat pénaliste Hervé Temim qui nous fait le plaisir de venir de temps en temps à s'exprimer sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir si un avocat c'est toujours... lui, si son client est innocent ou coupable. Au revoir, merci.
Bonsoir Elisa, c'est une question que beaucoup de monde se pose, alors merci de l'avoir posée pour nous. Maître Temim, vous êtes avocat, vous avez écrit « Secret défense » édité chez Gallimard, donc vous pouvez peut-être garder le secret si vous ne voulez pas le dire, mais elle demande Elisa si l'avocat sait toujours si son client est innocent ou coupable.
En fait, c'est une question qu'on nous pose souvent, tout le temps, qui peut paraître bateau, mais moi je crois que c'est une question essentielle. Parce que, Elisa, le rapport de l'avocat avec la vérité, c'est une des choses les plus intéressantes et les plus compliquées. Ben non, on ne sait pas toujours si notre client est innocent ou coupable. Alors on ne le sait pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça peut surprendre, voire choquer, mais on ne leur demande pas toujours la vérité. Un avocat, il ne demande pas toujours la vérité à son client. Il est là pour le défendre, pour la défendre. La deuxième raison, c'est que nos clients nous mentent beaucoup. Et vous savez, dans les années 80, il y avait une espèce de mot qui circulait entre détenus, qui était le suivant. Quand l'avocat n'est plus cru, son client est cuit. Donc l'avocat, quand on le rencontrait la première fois, eh ben il était une sorte de premier tribunal. On essayait de le convaincre, donc en lui racontant son histoire et souvent en lui vendant ses salades. Donc bien sûr que les clients mentent beaucoup à leurs avocats et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a des choses qu'on peut avouer à personne. Et puis si on veut essayer de se sortir d'une situation difficile, eh ben parfois on préfère mentir à son avocat plutôt que de lui avouer la vérité pour l'embarrasser avec un fardeau.
Ce que j'entends, en fait, dans ce que vous racontez, Maître Temim, c'est que l'avocat, il n'a pas d'ego à ce niveau-là.
Si un avocat a de l'ego à ce niveau-là, et on parle beaucoup de l'ego monstrueux par état d'avocat, mais si vous avez de l'ego à ce niveau-là, il faut changer de métier. Ouais. Parce que vous pouvez pas imaginer un métier où on vous ment autant et où parfois on montre aussi peu de reconnaissance. L'inverse est en vrai. J'ai vécu des histoires, je dirais, absolument merveilleuses. Mais l'inverse, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Au niveau de ce type d'ego-là, votre peau est très très vite durcie.
C'est intéressant parce que parfois, quand quelqu'un vous ment, on reproche au menteur de mal se comporter et on le gronde en lui disant « on le fait pour ton bien, pour que tu apprennes à pas mentir ». Et en fait, je pense que c'est pas vrai. C'est parce qu'on est blessé d'avoir été trompé. Elle dit la vérité, l'écrivain Viviane Perret. En tout cas, oui, je sais pas pourquoi je dis en tout cas, elle dit la vérité. Elle a écrit beaucoup de livres, dont Une vie du magicien et détective Houdini. Et puis son dernier livre qui est sorti le 1er avril, qui s'appelle Atomic Film, raconte un tournage aux États-Unis. Viviane Perret.
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 16 ans. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les sorcières sont plus mauvaises que les sorciers. Merci France Inter.
Et c'est Mamie, je voudrais savoir pourquoi les sorcières sont aussi méchantes. Merci.
Viviane Perret.
C'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les sorcières sont plus mauvaises que les sorciers? Eh bien la faute en incombe à la grande chasse aux sorcières qui a eu lieu, non pas au Moyen-Âge comme on le croit souvent, mais au XVIe et une bonne partie du XVIIe siècle. Il faut dire que tout avait été mis en place pour faire des femmes des boucs émissaires. Hérésie et sorcellerie avaient été fourrées dans le même sac par la bulle papale de 1326. Il existait déjà un tribunal religieux, le célèbre, très célèbre, l'Inquisition, créé spécialement pour lutter contre les hérésies. Il manquait aux enquêteurs un manuel pour pouvoir chasser parfaitement les sorciers, pour les repérer, les classer, tout ce qui pactisait avec le diable, et puis les faire avouer, leur permettre d'avoir un cadre légal dans lequel les faire avouer et les conduire à une mort certaine. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que quand on tombait dans les filets de l'Inquisition, on n'en ressortait pas indemne.
Viviane Perret, juste une chose, ce que l'Inquisition reprochait aux sorciers ou sorcières, ce n'était pas ni de l'excentricité, ni de fabriquer des médecines, c'était de pactiser avec le diable.
C'est une hérésie. À partir de 1326, la sorcellerie est considérée comme une hérésie, c'est-à-dire une doctrine qui est le culte de Satan qui s'oppose à la doctrine de l'Église. Ça n'est pas un crime, on ne va pas vous reprocher d'avoir empoisonné votre voisin, on vous reproche de pactiser avec le diable.
Donc même si j'ai rien fait de mal, mais qu'on m'a surpris en train de parler avec le diable, je suis jugée.
Vous êtes jugée, vous êtes condamnée et vous partez au bûcher parce que les méthodes pour vous faire avouer, vous ne pouviez pas échapper et dire ce qu'on attendait de vous. Alors il manquait, comme je vous disais, un manuel pour bien repérer qui pouvait prétendre au titre de sorcier. Eh bien, ce sont deux dominicains allemands qui s'y sont collés, Heinrich Institutoris et Jakob Sprenger. Ils ont rédigé en 1486 ce qu'on peut appeler très ironiquement la Bible de la sorcellerie, le Malus Maleficarum, le marteau des sorcières.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre?
C'est avant tout accentuer le caractère diabolique de la femme, la prédisposition à devenir sorcière. Alors, écoutez bien, selon ces deux moines, les femmes sont crédules, impressionnables, bavarde, inconstante, déficiente d'âme et de corps, imparfaite, reniant facilement leur foi, acariâtre, jalouse, soumise à leur passion désordonnée, insatiable charnellement et n'oublions pas, à l'origine du péché originel par la tentation qu'Ève exerça sur Adam.
C'est écrit noir sur blanc.
Noir sur blanc. Bref, concluaient les auteurs. En conséquence, on appelle cette hérésie non des sorciers, mais des sorcières, car le nom se prend du plus important. Mais un livre tout à fait dans l'air du temps, hein. Un livre qui achevait de dévaloriser la femme, mais qui était dans l'air du temps parce que la Renaissance était une époque où le statut juridique de la femme régressait et ça n'allait pas aller en s'améliorant. Donc l'ouvrage de ces deux dominicains a connu un succès inouï. Il y a eu plus d'une trentaine de rééditions et on les a crues sur parole. C'est pourquoi à partir du XVIe siècle, on a brûlé nettement plus de femmes que d'hommes. Et je vais vous citer un chiffre. Si on compare les chiffres des différents pays et qu'on fait une moyenne, on s'aperçoit que 80% des sorciers ont été des sorcières. Alors voilà pourquoi, Caroline, on a l'impression que les sorcières sont plus mauvaises que les sorciers. tout simplement parce qu'elles ont été majoritaires dans la victime de la répression de la sorcellerie. Delamarche est aujourd'hui musicologue à l'Orchestre National de Lyon, chargée des publications et conservatrice de l'orgue. C'est elle qui a adapté la musique classique et l'opéra pour les nuls.
Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir comment a-t-on inventé les flûtes traversières. Merci, au revoir.
Bonsoir Claire. Alors c'est drôle parce que en évoquant la flûte traversière, je pensais à une jeune fille que je connaissais qui jouait très bien de la flûte traversière, qui s'appelait Claire. Toi tu t'appelles Claire et devine le prénom de la personne qui va te répondre. Claire. Claire Delamarche, vous avez écrit et adapté la musique classique pour les nuls à mettre entre toutes les mains parce que c'est vraiment un livre intéressant, bien entendu, pour ceux qui ne sont pas nuls puisqu'ils s'intéressent à la musique. Alors c'est vrai que c'est un instrument mystérieux, cette flûte traversière. Claire demande comment a-t-on inventé les flûtes traversières ? Il y en aurait plusieurs ?
Alors oui, il y en a plusieurs des flûtes traversières. Il y en a de plusieurs tailles parce que, en fait, le principe de la flûte traversière ou de toutes les flûtes et de tous les instruments dans lesquels on souffle, c'est que plus ils sont petits, plus ils sont aigus. C'est un peu vrai, par exemple, dans la famille du violon. Le violon est tout petit, il est aigu. Et le violoncelle ou la contrebasse qui sont beaucoup plus gros sonnent beaucoup plus graves. En fait, les flûtes, c'est jamais que des tuyaux en bois dans lesquels on souffle. Et on fait ça depuis l'Antiquité, depuis les Égyptiens, les Grecs, tout le monde avait inventé la flûte. Mais effectivement, c'était plutôt des flûtes droites, c'est-à-dire qu'on avait devant soi et non pas des flûtes traversières qu'on joue sur le côté. Si tu as déjà vu une flûte, tu as vu qu'il y avait des trous sur les flûtes, des trous que l'on bouchait. Alors c'est tout simple, hein, le principe. Comme plus le tuyau est grand, plus il est grave et plus il est petit, plus il est aigu. Et ben quand on ouvre un trou, en fait, l'air, au lieu de sortir par le bout du tuyau, il va sortir par le trou. Donc c'est comme si on avait une flûte plus petite. Et donc ça fait plus aigu. Et c'est comme ça qu'en bouchant et en débouchant les trous, on rallonge ou on raccourcit le tuyau et on change les notes. Il y a quand même une flûte qui est rigolote, c'est la flûte de Pan. Plutôt que de boucher des trous, on a des tuyaux juxtaposés de différentes tailles et on change de tuyau selon la note qu'on veut faire.
Mais le principe est le même.
Mais le principe est le même.
Sauf que ça doit être fatigant.
Puis alors, quand c'est deux notes qui sont chacune à une extrémité, il faut aller drôlement vite et puis pas tomber sur le tuyau d'à côté. C'est quand même assez virtuose. Dans nos pays d'Europe, on a mis au point la flûte à bec. Et la flûte à bec, elle a des trous, elle est toute simple, elle est droite, on en joue devant soi. Il y a en fait toute une famille, des grandes, des petites, selon qu'on les veut plus graves ou plus aigus. Longtemps, il n'y a eu que ça. Mais les flûtes à bec, c'est pas facile à jouer, c'est pas très puissant, ça sonne toujours un petit peu pareil. Et c'est comme ça qu'au XVIIIe siècle, on a mis au point les flûtes traversières qui avaient des tuyaux plus longs, qui avaient des embouchures un petit peu différentes. Alors, c'était plus difficile d'obtenir la note au départ, mais une fois qu'on avait la note, on avait un timbre beaucoup plus joli et on pouvait faire des choses beaucoup plus différentes avec.
Et la matière ? Non,
j'ai pas. Et la matière, c'était en bois.
Ah, les flûtes traversières étaient en bois.
Elles étaient en bois. D'accord. Alors, il y en avait en ébène, par exemple, qui était très jolie, qui était donc noire. Il y en avait en poirier, en palissandre. Mais l'ébène était très à la mode avec, comme elle était en plusieurs morceaux, il y avait les jointures qui étaient en ivoire. Donc, il y a des très belles flûtes comme ça, noires et blancs. C'est beau comme tout. On en jouait comme de la flûte à bec, sauf que c'était sur le côté. Mais on bouchait les trous avec les doigts. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que quand même, c'était pas très juste parce que les trous, ils étaient percés plus ou moins précisément. Et puis, parfois, il aurait fallu ouvrir ou fermer plusieurs trous à la fois. Alors quand on doit ouvrir ou fermer plusieurs trous à la fois pour faire une note vraiment juste, ben, si on va très vite, ça devient très compliqué de bouger plein de doigts pour chaque note. Au 19e siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Théobald Böhm, un Allemand, qui a eu l'idée d'inventer un système avec des tringles, des tas de vis dans tous les sens, pour qu'en fait, en bougeant un seul doigt, on ferme plusieurs trous ou on ouvre plusieurs trous à la fois.
Malin.
Mais sauf que le problème, c'est qu'il mettait tellement de bidules sur la flûte que la flûte en bois, elle n'aurait jamais résisté. Et la flûte est devenue métallique, comme on la connaît maintenant. Alors, il y avait des flûtes en argent, il y avait même des flûtes en or, des flûtes en platine même. Il y avait des gens qui jouent des flûtes en platine. Puis alors, quand on débute la flûte, en général, on a une flûte en alliage un peu moins précieux. Et donc, c'est cette flûte qui s'est imposée, qu'on joue dans les orchestres maintenant, cette flûte de Böhm. Et comme à l'origine, l'instrument était en bois, elle est toujours classée dans la famille des bois, avec le hautbois, la clarinette et le basson.
Si vous voulez en savoir plus, réécoutez sur France Musique, radio de Radio France, l'émission de Christian Merlin de dimanche dernier consacrée aux instruments du baroque. Sans vouloir me vanter, je suis docteur en France Musique, je connais tout. Bien sûr, j'ai des chouchous. Christian Merlin en fait partie. Écoutez-le le dimanche matin entre 9h et 11h, vous m'en direz des nouvelles. L'émission s'appelle « Au cœur de l'orchestre ». Pas besoin d'être savant, il explique tout. Il réussit ce miracle d'informer, de divertir, de donner à entendre, à écouter, à rêver, à comprendre, sans jamais gaver ou donner de leçons. Je ne sais pas comment il fait. Tout est dans la dose, disait le génial Paracelse, ça doit être ça. Cerise sur le piano, il est drôle, ce qui n'est pas si fréquent à France Musique, il faut reconnaître que ce n'est pas non plus la radio de la grosse poilade. Dimanche dernier, donc, dans les vents, il nous parlait de tout un tas d'instruments inconnus au bataillon des ignorants auquel j'appartiens, et Christian Merlin, je le cite, nous donnait ce judicieux conseil. Si on vous demande ce qu'est un tournebout, vous répondrez que c'est un cousin du cromorne, et vous devriez normalement ne plus être embarrassé, pour évoquer la complexité de cette famille. Au cœur de l'orchestre, sur France Musique, le dimanche matin, de 9h à 11h, ou bien, quand vous voulez, à la réécoute, par francemusique.fr ou l'appli Radio France. Podcaster ou réécouter ces petits bateaux par franceinter.fr. Petits bateaux qui ont été réalisés par Marjorie Devoucoux et Eliane Girard. Prise de son Philippe Duclos, animation Noël Bréham. À suivre Jérôme Garcin et Un masque, la plume, consacré ce soir au cinéma, avec bien entendu des films que vous avez peut-être déjà vus.